LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
J'aime beaucoup cette tenue, en fait. J'aime bien être comme ça. Ça simplifie les choses. En fait, le vêtement, c'est fait pour simplifier la vie.
Donc là, vous êtes en total jean.
Ah ouais, la totale.
Un jean patiné. Il y a des trous d'usure.
Ah,
il y a
très abîmé.
Et là, vous avez quelle sensation quand vous avez mis votre... Vous avez votre jean, vous avez votre veste, vous êtes tout en jean.
Ouais. J'ai aucune sensation. Justement, je n'ai aucune sensation.
C'est ça qui est bien, alors
je n'ai aucune sensation. Non, je pense qu'un vêtement, c'est fait pour être oublié.
Quand nous avons rencontré Farid Chenoun, historien de la mode pour cette série de France Culture sur le vêtement, le hasard avait fait qu'il était ce jour-là habillé intégralement en jean. Sa veste et son pantalon étaient si délavés que l'on comprenait immédiatement l'attachement mutuel qu'ils se portaient.
Si on est préoccupé par le vêtement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a une entente entre le vêtement et soi, ou entre le vêtement et le corps, qui n'a pas été résolue, ou qui n'a pas été identifiée. Je pense qu'il faut qu'il y ait une entente.
Les vêtements de nos vies, un documentaire d'Emmanuel Paul, réalisé par Véronique Samouilov. Deuxième épisode, nos années jean.
Quand vous dites que vous oubliez que vous êtes habillé en jean, est-ce que ça veut dire qu'il y a une parfaite adéquation entre la forme de votre corps et la forme du pantalon, la forme de la veste ?
C'est plutôt la manière dont le vêtement accompagne le mouvement. Le fait de marcher, de tendre le bras pour attraper le truc, de se retourner, de conduire, de faire du vélo, je ne sais pas quoi. Donc c'est plutôt une espèce de plaisir presque inconscient qu'on a à profiter de cette bonne entente entre les deux et tout le monde est d'accord pour faire le même truc en même temps. Comme si, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois ? Dit le vêtement au corps. Eh ben, on va descendre l'escalier en courant. Ah ouais, voilà. C'est plutôt ça.
Yves Saint-Laurent disait, de tous les vêtements, et Dieu sait si lui il a inventé des choses, de tous les vêtements, celui que j'aurais voulu inventer, c'est le jean.
Sophie Fontanelle, journaliste et écrivaine.
C'est quelque chose... C'est comme une page blanche, en fait, qui vous permet de vous écrire. Et puis, c'est vrai que c'est sans fin. Moi, j'ai beau... Je me force à pas en acheter trop, parce que ça coûte tellement pas cher, parfois, dans les boutiques vintage, mais j'en ai plein. Et en plus de ça, nous parlons du jean bleu, mais il y a aussi le jean blanc. Et puis maintenant, il y a le jean noir. Et puis c'est lourd quand vous partez en vacances. D'ailleurs, c'est toujours le dilemme. La question, quand on part en vacances... Est-ce que je prends ou pas le jean ? Alors, il y a une école qui dit qu'il faut toujours prendre un jean. Enfin, quand vous allez en Grèce, vous ne mettez pas votre jean. Mais vous l'avez pris. Vous avez votre jean. Et d'ailleurs, si vous le prenez, vous ne le mettez pas. Si vous ne le prenez pas, vous voyez passer quelqu'un avec un jean. Et vous vous dites, j'aurais dû prendre mon jean. Vous savez que c'est terrible parce qu'on ne sait pas vraiment qui, il y a l'histoire des États-Unis, de comment ça a été inventé pour le... Et puis après, il y a l'histoire de la toile de Nîmes. Et puis après, dans les Cévennes, je suis allée à l'endroit où ils ont fabriqué les premiers jeans pour les gens qui construisent les voies ferrées, là-bas dans les Cévennes. Donc, mais c'est discuté. Après, il y a des gens qui s'engueulent. Donc en fait, c'est fou parce que c'est comme Shakespeare. On ne sait pas.
On ne saura pas. Voilà. On ne saura pas.
Mais le jean a quand même... Alors après, dans l'histoire du vêtement, par exemple, dans l'histoire du...
Farid Chenoun.
Du vêtement masculin en particulier, l'apparition du jean a été... a changé la donne du pantalon. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que il y avait un tailleur, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui disait « Je promets un bel avenir au tailleur qui abolira le pli de pantalon ». C'était en 43 ou 44. Quelques années après, à peine, les GI ou les Américains débarquaient avec les surplus et on commençait à trouver des jeans et le jean était lancé, quoi. Même si déjà avant, un peu dans les années 30, aux États-Unis, il y avait déjà des espèces de petites niches très, très snob du jean porté dans les fermes. dans les grandes propriétés. Donc ça, c'est quand même... parce que c'est ça un peu ce qui s'est passé, par exemple, dans le vestiaire masculin, sur l'histoire du pantalon. C'est-à-dire qu'il y a eu cette coexistence du pantalon droit à plis, qui a été très, très, très importante pendant toute la période classique du XXe siècle, et puis qui était un peu une sorte de guide dans les codes de l'élégance. C'était indiscutable. Autant le pli, les plis dans le vêtement féminin est beaucoup plus volubile, beaucoup plus subtil et beaucoup plus envolé, avec plus de reprises, relève plus de quelque chose qui ressemble à la sculpture baroque ou quelque chose comme ça. Le pli du masculin, lui, est droit comme un fil à plomb et ne supporte aucune faiblesse, quoi. Et donc, ça a été vraiment une sorte de dictat qui a fait souffrir beaucoup de femmes d'intérieur, parce que c'est elles qui repassaient le pli du pantalon du mari. Mais ça, c'était plutôt dans les classes moyennes, hein. Mais même le dimanche, l'habit du dimanche, le pli du pantalon devait être absolument impeccable.
Et c'est vrai que le jean, il échappe.
Et le jean a complètement fait disparaître ça, quoi.
Est-ce qu'il y a un secret sur le succès du jean? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que ce pantalon est un manifeste universel.
Sylvie Marot, commissaire d'exposition.
Il est porté partout, par tous et toutes, en toutes circonstances. Parce que son prix aussi est accessible. On est sur une toile de Nîmes qui est faite pour durer. C'est pour ça d'ailleurs que ce pantalon a ce succès, c'est qu'au départ c'est un pantalon de travail et qu'il est solide et c'est pour ça qu'on l'utilise. Le jean, en fait, il y a aussi cette polysémie du mot qui nous pose problème. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle du jean, donc qui nous renvoie à une étoffe, qui serait le denim, qui nous renvoie à une forme, qui serait celle de la paire de jeans, avec un S, puisqu'on a deux jambes. Donc encore une fois, il y a cette polysémie de ce terme-là qui nous renvoie vers des histoires différentes. Mais oui, évidemment, le jean renvoie à une matérialité. En fait, à chaque fois, on est toujours dans cette polyvalence. Ça renvoie à une matérialité et ça renvoie à de l'immatériel. C'est ça qui est fort dans le jean.
Le jean est un objet de désir.
Je peux vous dire que la première fois dans ma vie, je pense, un premier vêtement que j'ai désiré, c'est que je voyais des jeans sur Jane Birkin, qui était une énorme vedette à la télévision, dans les émissions de variété, voilà, que je regardais quand j'étais enfant.
Sophie Fontanelle.
Et elle avait des jeans 501, très usés, qui n'étaient ni ultra baggy, ni moulant. Ils avaient l'air de tenir en apesanteur sur son corps, et ils avaient pris la forme de son corps aussi. Et je voulais les siens. Je les voulais pas si moulants qu'il fallait forcer en les mettant. Moi, je voulais celui de Jane Birkin. En général, quand vous avez un jean que vous aimez bien, et par exemple, vous avez trouvé un jean un peu... comme ça, un peu pas de dev, un peu huggy les bons tuyaux, là, de trouver un jean un peu pas de dev, vous le portez un petit peu trop grand, mais en même temps, il monte, il est bien taille haute. C'est ce jour où vous avez le vôtre, vous l'adorez, il est vraiment génial. Vous le dégotez avec un petit pli, la forme du pli devant. Tout ça a été refait par les marques, hein, mais parce qu'ils l'ont vu sur des gens cool. Et vous l'achetez, et puis c'est là que vous voyez quelqu'un qui a complètement autre chose. Lui, il l'a un peu carotte, ça se resserre en bas comme dans les années 80. C'est complètement baggy, ça fait comme une bulle. Et puis c'est taille basse. Et vous dites, non mais c'est celui-là que je veux. C'est-à-dire que c'est à l'infini, mais c'est ça qui est extraordinaire. Le jean permet la quête du vêtement idéal parce qu'il n'est pas trop cher. Parce qu'en fait, si vous allez dans des friperies, un jean, ça peut coûter entre 5 et 40 euros si c'est vraiment un très, très, très beau jean, vraiment avec le petit liseré rouge à l'intérieur de l'ourlet. Enfin, vous voyez, c'est pas cher. Et vous pouvez à l'infini, d'abord vous pouvez chercher, trouver le bon pendant des heures. Des gens étaient assez fous pour abandonner des jeans extraordinaires, vous voulez trouver. Il y a une femme en Ukraine, elle s'appelle Xenia Schneider. Malgré ce qui se passe en Ukraine, elle a continué là à produire une collection. Sa particularité, c'est qu'elle produit des jeans immenses, immenses. Elle les fait tenir avec des espèces de petits pinces qu'elle fait à l'intérieur. Enfin, si vous voulez, ils nagent à la taille, mais quelque chose les retient aux hanches. C'est tout un petit trafic. Et elle m'a dit, pourquoi vous faites des jeans si grands? Je lui ai raconté. Et elle m'a dit, parce que ça a été une quête toute ma vie. Parce qu'en fait, en Ukraine, quand moi j'étais un peu plus jeune, on ne trouvait jamais sa taille. Plus petit, on ne pouvait pas prendre, alors on prenait plus grand. Et parfois, c'était 6 fois trop grand. Mais on les prenait quand même.
Puis il faut bien aussi comprendre une chose, c'est qu'avant le jean, il n'y avait pas de jean. C'est con ce que je dis, mais c'est vraiment réellement ça.
J'ai travaillé pendant une dizaine d'années, presque, pour m'arrêter François Girbeau, connu, reconnu comme des jeaneurs, même si c'est un terme un petit peu limitant et pour certains péjoratif, tout dépend de quel milieu on vient.
Sylvie Marot.
Et c'est vrai qu'en étant à l'intérieur de cette marque et d'être entourée de milliers de jeans, c'était pour moi quelque chose de surréaliste, puisque moi-même, en tant que personne, je n'ai, pour ainsi dire, jamais porté de jeans. Donc il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du paradoxe. En 1967, il faut imaginer Marité Bachelleri dans des laveries. Donc des laveries, on est là pour laver du linge, hein. En mettant des coins, enfin en mettant des pièces dans les machines pour laver ses pantalons, ses propres pantalons. Et elle le faisait parce que eux, à l'époque, ils étaient passionnés des États-Unis, ils rêvaient du jean américain, ils rêvaient du western, et donc ils importaient des pantalons de Levi's, entre autres, enfin Levi Strauss et compagnie. Au sein de la boutique Western House, qui était une boutique totalement surréaliste aussi aujourd'hui, une espèce de temple de la mythologie américaine. Et donc Marité et François, qui importaient ces jeans qui à l'époque étaient bruts, raw comme on dit voilà, en bon anglais, et ces jeans bruts n'étaient pas portables en soi. Enfin, ils étaient portables, mais ils étaient difficilement enfilables. Et donc pour les assouplir, pour les rendre prêtes à porter, au sens presque propre du terme, il fallait les porter ou les laver, les délaver. Et donc ces premiers délavages-là se sont faits de façon tout à fait artisanale. Et puis la machine s'est mise en marche et il a fallu voilà, trouver une réponse industrielle.
En général, les gens vont travailler en pantalon. Eux, c'est spécial. Ils travaillent le pantalon. Ils travaillent le pantalon. Pantalons américains, pantalons, pantalons américains. Ils travaillent de pantalons.
Donc on part d'une aventure presque naïve, j'ai envie de dire, de gens totalement fascinés par ces États-Unis qui rêvent d'Amérique sans parler un mot d'anglais, qui ne sont jamais allés d'ailleurs aux États-Unis, et de ce rêve-là, de cette mythologie qui est lié au jean, hein, très clairement, cette mythologie américaine, ils vont en faire une réalité française. Et c'est là où leur parcours devient intéressant, c'est-à-dire que dans l'une de leurs campagnes de publicité, qui est pensée et conçue par Jean-Luc Godard, ce qui déjà situe les couturiers, enfin, en tout cas les créateurs, dans un concept marketing loin de celui utilisé par Calvin Klein ou par Levi's ou par, en tout cas par toutes les images qu'on peut se faire voilà, de la mythologie américaine tournant sur le sexe et le rock'n'roll. Il y a cette phrase qui est répétée par la voix même de Jean-Luc Godard qui est « ne pas faire un jean comme les Américains. »
Pas de jeans américains, pantalons, ils travaillent de pantalons.
Jean-Luc Godard, 1987.
Et il y a cette espèce de leitmotiv qui revient, de moto, qui est le fil rouge en fait de toute leur création. Et c'est probablement les rares jeaneurs français à repenser le jean dans sa forme et dans sa matière. Et c'est en ça que leur parcours est véritablement intéressant.
Et quand ils font référence aux États-Unis, vous parliez de mythologie, ça serait quoi leur grande figure ?
Je pense que c'est une figure abstraite. C'est la figure du pantalon, bien sûr, du western. C'est tout aussi bien James Dean que Brando, mais aussi Marilyn, cette espèce de personnage qui rêve de liberté et de grands espaces. Il faut quand même imaginer François Girbeau dans les années fin 60 à Paris, habillé en cow-boy. C'est assez, même moi quand il me le dit, il fallait vraiment que je voie les photos pour l'imaginer en total look cow-boy. Il faut imaginer Marité Bachelery habillée de poncho qu'elle tricote elle-même. Donc on est vraiment dans cette mythologie rêvée d'une Amérique idéalisée, bien sûr, et qui a participé au façonnage de ce jean américain, dit américain.
I love you, Jim. I really mean it.
Marilyn, Marlon, James, Henry et les autres.
Tous les ados ou jeunes gens des années 70 connaissent, ou des années 60, connaissent les films de James Dean.
Nicole Fouché, maître de conférences mode et cinéma.
On se rappelait très bien le moment où James arrive avec son blue jean et il a aussi le blouson. Ça, c'est dans La fureur de vivre, Rebel Without a Cause, où il est seul avec son père et son père a un petit tablier ridicule qui noue autour de la taille. Évidemment, le père est féminisé de manière ridicule, ce qui va amener James à être viril encore plus, prenant la place de la mère. Bon. Mais tout ça était très très lisible, visible pour les gens des années 70. On pouvait aller voir 10 fois un film, on connaît par cœur le moment où le jean est visible, le geste que fait le personnage avec le jean, ce qui montre évidemment le mimétisme.
En blue jean, si vous en prie, tu vas rejoindre les copains. Si tu ne vois pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu les verras demain. En blue jean, si vous en prie.
Aujourd'hui, ce qu'il en reste, ce sont des images qui sont véhiculées, mais qui sont véhiculées par... non pas par l'objet lui-même, pas par le cinéma.
Le vêtement, il porte en lui toutes ses strates.
Absolument. La multiplicité des images va permettre une multiplicité des approches aussi. Et de toute façon, la façon de voir et la façon de vivre le jean n'est plus le même que celui des années 70.
Toutes les représentations qui sont associées, par exemple au cinéma, Marlon Brando par exemple, c'est pas quelque chose qui me touche particulièrement. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, ça n'éveille rien pour moi. Je pense que ce vêtement-là a depuis longtemps quitté son port d'origine, en tout cas son port imaginaire d'origine, hein, et que il a pris la haute mer depuis très 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 longtemps. Donc ces références-là, elles sont encore dans des dans des grandes armoires, ces espèces de médiathèques, ou je ne sais pas comment appeler ça, qui n'ont été que des relais d'ailleurs. L'histoire cinématographique du jean, elle a connu une étape qui n'est qu'une étape.
Vise-moi dans ça que la lune. T'as une affiche au pantalon.
Comment est-ce que ça s'est fait, cette histoire de conquête du jean? Parce qu'on a une idée de western, justement, toujours véhiculée par le cinéma, du jean qui arriverait par l'Amérique. Mais est-ce que ça aussi, ça a fait partie d'une mythologie, Nicole Fouché?
Non, c'est réel. C'est réel. Le cinéma américain était une référence pour l'Europe entière au moment du noir et blanc, puis de la couleur. Et dans la mode des années 60, on entre toujours les films américains. Et les grands cinéastes français travaillent aussi sur le cinéma avec la relation aux États-Unis. Maintenant, ce qui est complexe, c'est de savoir quelles images, je dirais au pluriel, donne le djinn. Parce que on parle du djinn avec les cow-boys, le vrai cow-boy n'a pas de djinn, ou très très peu. Et je rappelle que les premiers cow-boys au cinéma étaient habillés de manière absolument incroyablement luxueuse, avec des pantalons de soie, avec des franges, avec des bijoux, même les chevaux. Tom Mix avait un cheval qui était connu pour ses couvertures brodées. Le cow-boy, c'est une mythologie plus qu'une réalité américaine, mais on a aussi des images qui sont réelles. Si vous pensez au raisin de la colère, la salopette, évidemment, de Henri Fonda, c'est un must. Tout le monde connaît cette salopette. Elle est liée là au travail, aux travailleurs, et il y a des quantités de travailleurs qui portent cette salopette. Donc, c'est ce qui nourrit l'imaginaire des années 60 en référence à une réalité sociale. Always
true to you. Je vous interdis les cheveux dans le dos, les cheveux décolorés, le maquillage, les lunettes fumées, le sac à main, les pantalons, les collants de couleur.
Les blue jeans.
Ça fait mauvais genre.
Les cheveux trop longs pour les garçons.
Ça fait aussi mauvais genre et ça fait sale. Always be
love. C'est la raison de la colère. Pour moi, c'est la raison de la colère. Hein. C'est vraiment... voilà, c'est les salopettes en jean. C'est moins Marlon Brando que, justement, c'est...
Sylvette Godichon, chargée des expositions et des collections d'art appliqué du musée de la piscine de Roubaix.
Je sais pas, il y a chacun a une représentation différente du vêtement. Je pense qu'il y a aussi une force de représentation qui est pas forcément celle qu'on voit. C'est aussi, il y a beaucoup de choses autour du vêtement qui a une symbolique comme ça. Alors effectivement, le jean dans le vêtement quotidien est quand même très très fort, et c'est à la fois un uniforme, parce que c'est aussi, ça peut être un uniforme, mais c'est aussi un sentiment de liberté. Enfin, moi je me rappelle dans les années 70, c'était la liberté, avoir un jean c'était quelque chose qui était même assez dans les familles, des bonnes familles, les adolescents, le jean c'était une revendication.
Vous vous souvenez de votre premier jean?
Je pense que je me l'étais offert toute seule. C'était un vêtement que certainement ma maman ne voulait pas pour une adolescente.
France Inter, il est 1h, les informations. Les manifestations au quartier latin, nous allons faire le point tout de suite. Pierre Lantenac.
Les barricades continuent de s'ériger, de monter, elles sont très hautes, il y en a qui montent jusqu'à 3 mètres de haut. Ces barricades se modernisent puisque les étudiants ont maintenant deux marteaux piqueurs et ils s'en servent pour desceller les pavés de la chaussée. Atmosphère détendue, décontractée, bon enfant, une atmosphère de western un peu, beaucoup de blue jeans, beaucoup de blousons et puis également le foulard à la cow-boy que l'on maintient sur son nez pour éviter justement de trop respirer les gaz lacrymogènes.
Il a fallu 68 pour que le jean soit accepté par exemple dans les lycées. Donc ça a été une
Nicole Fouché.
Marque très forte de libération, à tous les sens du terme, libération de corps dont on parle tellement sur ces années-là. Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que à partir de 68, lycées mixtes se sont généralisés, ce qui n'était pas le cas avant. Et on a eu aussi une façon de s'habiller pour une classe mixte. C'est-à-dire que les lycéens le prennent aussi comme un emblème de leur choix possible. Et on arrive à ce moment-là une autre façon d'acquérir le vêtement. On ne va plus avec sa mère acheter le vêtement qu'elle a repéré, qu'elle a peut-être même déjà choisi, mais on va ensemble, en bande, en groupe de filles, choisir, ou de garçons d'ailleurs, choisir son jean.
Le jean, c'est un objet, c'est plus qu'un objet, c'est un monde, c'est un imaginaire.
Anthony Mathé, sémiologue.
Alors, il y en a qui ont les références, il y en a qui les ont pas. Les jeunes avec qui j'ai discuté, les références James Dean, rien du tout, hein. Ils ne connaissent pas le t-shirt blanc jean, ils ne voient pas Marlon Brando, ils voient pas, même avec Imperfecto, ils ne voient pas James Dean. Ça n'existe pas, hein. Vintage, histoire, archives, mémoire, c'est les années 2000 pour eux, hein. On ne va pas plus loin. C'est un état de fait, c'est comme ça, hein. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ma part. Mais aujourd'hui, il y a quand même du choix de coupe, du choix de couleur, du choix de matière. Donc on peut trouver.
C'est quand j'ai commencé à faire du reportage pour la radio que je me suis acheté un jean. On avait alors encore des Nagra, ces appareils pour enregistrer avec des bandes magnétiques. Ils pesaient le poids d'un âne mort et abîmaient de leur frottement les habits. Partir en reportage en robe et talons était compliqué. Alors, je me suis acheté un jean. Pas un jean déchiré artificiellement puis rapiécé de cotonnade provençale comme les aimaient les années 80. Pas un baggy des années 90 ni un slim des années 2000. Je me suis acheté un jean reposant, constant et fidèle. Un jean simple, neuf et foncé, importé du Japon. Je découvrais combien il était facile de dialoguer avec un jean, même s'il maltraite le ventre. J'aime la rigidité du jean propre et la nonchalance du jean porté. J'aime les surpiqûres qui font la jambe plus rectiligne. J'aime les deux poches plaquées sur les fesses ou rangées ses mains au cours d'une conversation. Je n'aime pas les jeans extensibles, ils mentent. Dès le second jour, ils font croire à une mutation spectaculaire du corps et le jean baille aux fesses, poche aux genoux, se relâche et m'ennuie. Un jean 100% coton gagne en amabilité sans se répandre en compliments le lendemain matin. Il est juste, il est beau, tout lui va. Le jean permet une mise au repos de l'esprit qu'aucun autre vêtement ne saurait procurer.
Alors vous voulez aller là, c'est complètement le bordel, hein. J'ai pas du tout rangé pour vous.
C'est pas grave. Ah bah, de toute façon, il fallait pas, je me mets dans le petit coin par là.
Ouais.
Sophie Fontanelle.
En fait, ici vous êtes dans mon placard. Donc on appelle ça un dressing si on veut être un peu snob. Et j'ai fabriqué cette espèce d'endroit qui peut être mieux rangé, je dois dire, que vous tombez un jour où ça peut être mieux rangé parce que je peux avoir une espèce de crise maniaque où tout d'un coup je veux... Alors c'est pas que j'aime que ce soit rangé, j'aime me souvenir de ce que j'ai. Donc, je mets tout bien en pile. Et tout ça, c'est...
Au cordeau.
Ouais, au cordeau. Ça, ouais. Voilà. Mais je donne énormément de choses. Moi, je n'ai pas du tout un rapport maniaque aux vêtements. J'adore tellement aller chiner que je me dis, oh, bah, si je perds tout, ça ferait une occasion d'aller chiner à nouveau. Voilà, quoi. Là, il y a une pile de jeans. Alors, il y en a quelques-uns là, d'ailleurs, là-bas. Vous voulez regarder qu'on les regarde ?
Eh ben, ouais.
Alors là, par exemple, c'est le dernier que j'ai acheté. Vous voyez, il est très bien délavé, c'est-à-dire que on voit bien que ça a été fait par le temps et pas par une machine. On voit les plis du corps, quoi, en fait, dessus. Ici, il avait un trou que j'avais pas vu quand je l'ai acheté à la braguette. J'ai fait un point. C'est un vrai plaisir quand on sait coudre de faire une reprise sur un jean. Donc là, je suis en train, je fais en plusieurs étapes pour que le tissu s'habitue et boive en fait mes points. Je vais le broder au-dessus avec un petit fil ton sur ton. Je vais broder dessus. Mais moi, je suis la fille d'une couturière. Mais c'est la chose qui me repose le plus. Je peux. Hier, j'ai fait l'ourlette, ce petit Bermuda. Si vous êtes venu,
c'est quoi un jean
pendant...
Un jean, c'est d'abord une toile de denim. Le denim, c'est un tissu robuste, 100% coton, dont la trame est passée sous au moins deux fils de chaîne. Un jean, c'est une fermeture par braguette ou par bouton de métal. Comptez 17 mm de diamètre pour les boutons et 19 cm pour la braguette. Un jean, c'est 5 poches, traditionnellement riftées, pour éviter qu'elles ne se déchirent sous le poids des outils, plus récemment sous celui du téléphone portable.
deux poches cavalières, deux poches plaquées et une poche à gousset.
Donc je suis obligée d'enlever cette magnifique.
Un jean, c'est enfin un ourlet de 1 cm, pas plus, et des surpiqûres doubles cousues à 1 et 7 mm sur l'extérieur de la jambe.
Ensuite, vous en avez un autre, alors ça, ça coûte plus cher. Et celui-là, alors il est particulièrement génial parce que c'est tellement un truc de hipster. Non seulement il a un pli comme s'il avait été repassé, comme si j'étais un ministre qui allait passer à la télévision, mais le pli est cousu. Alors ça, j'adore.
Et en même temps, je voudrais vous dire que tout de même, les jeunes gens ne veulent plus être militaires. Ils ne veulent plus d'uniforme. Et ils adoptent le jean qui est un uniforme égal. Moi, je voudrais un jour pouvoir faire l'uniforme des militaires avec le jean. Je pense que ce serait fantastique, car il pourrait y avoir un rejet du jean. C'est pas que je le critique, le jean. J'en fais moi-même, j'en vends. Donc, par conséquent, je n'ai pas à le rejeter. Mais enfin, tout de même, de penser que la liberté de l'homme, c'est d'être contraint dans un vêtement, un uniforme, je trouve que c'est quand même beaucoup philosophiquement matière à pouvoir discerner quelle est la liberté quand on s'enferme soi-même dans un vêtement qui est l'égalité des autres. Alors que dans le fond, que la vie, c'est l'individualité. La vraie valeur de l'homme, c'est d'être individuel, c'est d'être différent des autres.
Pierre Cardin, 1992.
On dirait un bleu de travail, mais c'est en fait, c'est un dénime, vous voyez, quand vous regardez à l'intérieur.
Star en jean. Madonna et son jean neige. Cindy Crawford et son jean taille haute. Inès de la Fressange et son jean retroussé. Vanessa Paradis et son jean chic. Eva Longoria et son jean destroy. Mila Jovovich et son jean flair. Lana Del Rey et son slim délavé. Mélanie Thierry et son jean boyfriend. Michelle Obama et son jean troué.
Ça, c'est quoi, ça? C'est un 521. Alors, ça, c'est encore une autre trouvaille. Alors, lui aussi, usé, vous voyez, on voit.
Quand on porte ce jean de la fin des années 60, début des années 70, est-ce que le jean, à ce moment-là, est un signe fort d'un impérialisme américain?
Oui, 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 et d'un impérialisme qui, à la fois, fait rêver, mais fait peur aussi. Et il n'était pas question de porter un jean. J'ai des amis à Moscou qui parlaient de leurs parents ayant des jeans qu'ils ne portaient pas, mais ils étaient arrivés à en avoir un et ils avaient ça. Parce que porter un jean était un geste politique qui valait mieux pas tenter.
Si le jean a fait une sorte de conquête planétaire,
oui.
Est-ce que ça veut dire que le jean fait de nous des individus libres dans nos jeans ou au contraire totalement aliénés à l'idée de porter tous la même chose?
Alors, vous dites porter tous la même chose, un jean n'est jamais pareil à un autre. Alors, c'est vrai que le vestiaire de base, c'est 4 à 5 jeans. Mais j'ai pas 5 jeans, j'ai 5 différents jeans que je ne mets pas de la même manière. Et c'est un marqueur d'individualité. Ça oui, mais pas de liberté. C'est-à-dire que on peut choisir un skinny ou un baggy. C'est sa façon de se voir, la façon dont on veut montrer son corps ou le sentir le jour où on le met. Et d'ailleurs, on peut en avoir un skinny un jour et un baggy le lendemain. Donc, il y a une appropriation qui est sur l'individualité, mais c'est pas la liberté, pas la liberté au sens de revendiquer. On ne se bat plus pour avoir un jean, c'est plus la peine.
Puisqu'il est là.
Il est là. Il est là et vous avez même le choix de savoir celui que vous allez prendre.
Là, je vous montre celui-ci parce que celui-ci, c'est un jean qui a donc été, qui devait être blanc et qui a été surteint.
En bleu ciel,
vous voyez, ouais, pareil. Ouais. Je l'ai acheté, il y avait un trou, mais j'aimais tellement la couleur que je l'ai acheté quand même. Il était plus foncé. Et voyez, je lui ai fait ce dont je vous parle. Et du coup, quand je vais le porter, il va faire comme ça, voyez. Ça va se dégager de ma taille. Mmh. Et c'est à la hanche qui va s'accrocher. C'est à la hanche qui tient, c'est pas à la taille.
Ce qui est bien, c'est que vous le forcez à devenir vôtre. Parce que même si ce jean, il repart dans un circuit de seconde main, il aura quand même ses petites surpiqûres, il aura été à votre taille, et il part avec des bouts de vous, quoi.
Ah bah oui, il est... tout ce qui est passé par ici, en tout cas en matière de pantalons, de jeans chinés, là je vous en montre un autre, j'ai été obligée d'intervenir pour que ça puisse m'aller. Mais j'ai mis des années à comprendre ça.
Vous voulez pas vous asseoir ?
Ah bah je crois que la fascination du jean vient de ce que signifie porter un jean. Pour soi, je ne parle pas pour les autres visuellement, etc. Parce qu'on pourrait en parler.
Anthony Mathé.
Je crois que la fascination du jean vient de ce que l'on vit soi quand on porte un jean et qu'on le porte plusieurs fois. Je ne parle pas de l'usure, je parle de la patine. Je parle de l'empreinte du corps sur le jean. Ça, c'est une expérience vécue, surtout quand c'est du jean, quand c'est du pur coton, hein, qu'il y a pas de... Le jean s'adapte au corps. C'est-à-dire qu'il va se resserrer à certains endroits et s'élargir à d'autres. Puis il va gagner en douceur. Il va gagner en texture. Et là, il y a certains tissus, moi, qui me fascinent. Hein. Bon, celui au coton, hein, mais un trench. Plus vous le portez, plus il s'adapte à votre corps. Bah, le jean, c'est pareil. Sauf que le jean, on est en plein dans l'ordinaire. C'est le cœur de l'ordinaire. Et je crois que ce qui n'est pas compris souvent quand on pense à la mode ou à tous ces univers du paraître, c'est que c'est le plus ordinaire qui est extraordinaire.
Il a mis un blue jean. Si c'est pas être proche des gens, ça. C'est pas un peu télé-réalité, cette mise en scène ? Ses chaussures le trahissent tellement... Un gars fringué comme ça, ça se voit tellement qu'il est déguisé en prolo. Il a mis un blue jean.
Et quand on voit Emmanuel Macron se faisant photographier avec un jean neige, qu'est-ce qu'il raconte avec ça ?
Me revient une phrase de Virginia Woolf qui est, elle dit à un moment, on ne porte pas un vêtement, il nous porte.
Sylvette Godichon.
Moi, je suis assez sensible à la façon qu'ont les hommes politiques de s'habiller, parce que effectivement, ils ont un discours verbal qui est très... Après, il y a un discours corporel. Et puis, il y a ce discours du vêtement. Jean-Luc Mélenchon, qui porte aussi des vêtements d'ouvriers. Alors, avec plein de guillemets à ouvriers, parce que bon, c'est le laboureur qui fait pas forcément des vêtements pour les ouvriers. Il y a un discours, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est dit. Alors, je sais pas si c'est... Ce matin-là, il va prendre cette veste en disant « je vais dire ça dans mon discours » et la veste va accompagner. Mais c'est sûr que le vêtement, il nous porte.
Il a mis un blue jean. Il a mis un blue jean.
Alors, Macron et la mode, écoutez, c'est... Comment dire ? Poliment. Je pense que c'est du premier degré et que c'est de l'emprunt. C'est même pas de la citation, parce que quand on parle de Marlon Brando, James Dean, c'est des images qu'on a en tête. Une femme qui s'habille, et on a vu une que j'avais rencontrée qui me disait « Bah, quand j'ai envie d'être d'humeur Marilyn, je mets ma robe blanche et je me sens Marilyn. » Personne ne le verra, parce qu'elle est pas blonde, elle est rousse et qu'elle passe pas au-dessous d'une bouche de métro. Mais c'est pas grave, elle avait ça en tête. Et c'est ça qui compte, parce que ça vous donne une énergie, ça donne un mouvement encore. Il n'y a pas que l'habit, on n'est pas des images, hein. C'est ça qu'il faut expliquer aux jeunes à un moment donné, hein. Vous n'êtes pas des photos 2D ambulantes, hein. Vous êtes des corps et l'énergie que vous allez mettre dans vos habits, ça change tout. Les stars que vous admirez tant sur Instagram, si vous les voyez en vrai, vous vous rendrez compte qu'ils ont un truc en vrai dans la vraie vie, par la gestuelle, l'attitude, le rythme, le corps, la présence, le charisme, l'aura. Il y en a plein de mots pour désigner ça. Moi j'appelle ça l'éclat du sujet. Mais ça vient de l'intérieur et ça va vers l'extérieur. Bon, bah Macron, avec son jean neige, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il fait une citation. Mais c'est même pas une citation, c'est un emprunt. Il s'est trompé de paradigme, vous voyez ? Il a voulu faire comme les autres. Il faut savoir emprunter. Et si vous empruntez quelque chose, bah, il faut savoir se l'approprier. Si le corps n'est pas un objet, c'est pas un sapin de Noël sur lequel on va mettre une guirlande bleue ou une guirlande de neige. Le corps a sa propre contrainte, votre personnalité est dans le corps. Donc vous l'habitez ce corps, hein. On est un corps, on a un corps, on est les deux à la fois. Et quand vous empruntez, ben, si vous ne faites pas un effort pour montrer que c'est vous qui avez envie de le porter, vous êtes déguisé. Donc Macron, si vous voulez que je vous le dise autrement, on voit que c'est un emprunt, on voit surtout qu'il est déguisé, quoi. Il en a fait beaucoup des fashion faux pas, comme on dit comme ça.
Est-ce que je suis quelqu'un d'autre en portant un jean ? Alors, Je dirais pas, enfin pas forcément. C'est
Marie
plutôt
Schill,
avec,
docteur c'est plutôt en philosophie de l'art, spécialiste du vêtement.
C'est vrai que cette construction, enfin certains vêtements ont été très fortement construits aussi, ben, voilà, par le, que ce soit par le cinéma, par les séries télévisées, les, bien sûr la littérature aussi. Donc on, c'est vrai que c'est, il est difficile parfois d'appréhender enfin un vêtement simplement par ses qualités matérielles. Je veux dire, sans s'empêcher de projeter aussi tout un imaginaire. Le vêtement influe aussi, alors peut-être sur la façon minimale, sur la démarche, mais peut-être sur l'attitude, sur l'assurance que l'on peut avoir aussi. Et donc d'une certaine manière, c'est vrai que c'est aussi intéressant de concevoir la relation avec le vêtement en ce sens-là, c'est qu'il nous altère aussi. C'est-à-dire que, bah, bien sûr, nous, en l'enfilant, on lui donne une forme par la forme de notre corps, mais lui, par l'imaginaire qu'il porte, en fait, nous altère au sens où bah, il nous fait devenir autre.
Le propre des blue jeans, c'est de comprimer la région sacro-lombaire et de se maintenir non pas par suspension, mais par adhérence. Mon corps était alors partagé en deux zones indépendantes. L'une juste au-dessus de la taille, libre par rapport aux habits. L'autre, de la taille aux chevilles, identifiée organiquement à l'habit. J'ai découvert que mes mouvements, ma manière de marcher, de me retourner, de m'asseoir, de presser le pas, étaient différents. Ni plus difficiles, ni plus faciles, mais sans aucun doute différents. Par conséquent, je vivais en sachant que je portais des jeans, alors que d'habitude, on vit en oubliant qu'on a un slip ou un pantalon. Je vivais pour mes blue jeans, et je prenais par conséquent l'attitude extérieure de quelqu'un qui porte des jeans. En tout cas, j'adoptais une contenance. Umberto Eco, La pensée lombaire, Corriere della Sera, 1976.
C'est quoi s'habiller ? Est-ce qu'on s'habille pour des besoins primaires, ce qui est vrai, jusqu'à preuve de contraire, on ne sort pas nu ? Qu'est-ce qui guide nos choix d'achat ? Est-ce que ce sont que des choix économiques ? C'est faux. Le fait d'avoir de l'argent ou ne pas avoir de l'argent n'est pas le véritable guide à l'achat. Est-ce qu'on s'habille pour ressembler ? Est-ce qu'on s'habille pour appartenir à une classe sociale ? Est-ce qu'on s'habille pour ne pas appartenir à cette classe sociale ? Est-ce qu'on s'habille pour se distinguer ? Et toutes ces questions-là, quand bien même on rejette la mode, le système de la mode, on y adhère. Ça aussi, c'est un fait. On ne peut être sans habit. Et quand bien même on est sans abri, par exemple, ou quand bien même on est en exil, on porte des habits. Et peut-être que ces habits peuvent être stigmatisants, parce que ce ne sont pas les nôtres, parce qu'on est parti en urgence, parce qu'on a pris ce qu'on pouvait prendre, ou au contraire, on porte des habits parce qu'on les a choisis, parce qu'on les a choyés, on les chérit. Donc en tout cas, l'habit fait sens, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on est libre de ce sens ? Rien n'est moins sûr. Mais parler de l'habit, parler du vêtement, c'est parler de sa place dans la société. Et on ne peut pas dire comme ça, j'ai envie de changer de classe sociale, donc je vais mettre un jean, ou donc je vais mettre un costume trois pièces. C'est pas aussi simple que ça. Blue jean.
Bien sûr qu'il est important de s'habiller en jean.
Pierre Cardin.
Quoique, sur le plan social, c'est la plus grande tromperie qui existe au monde, car soi-disant, pour être égaux, c'est le plus grand capital de fortune qui existe, l'homme qui fait du jeans. Car c'est là le grand capitaliste aujourd'hui.
Pour faire un jean, il faut 1 kg de coton, quelques rivets et des boutons en métal, et 11 000 litres d'eau. Souvent fabriqué en Asie, il a pu parcourir jusqu'à 65 000 km, soit une fois et demie le tour de la Terre, avant d'arriver jusqu'à vous. Le coton, cultivé en Ouzbékistan, peut être filé en Turquie, puis teint en Bulgarie. La toile peut ensuite être tissée à Taïwan, et le jean assemblé en Tunisie, avant d'être livré en France. Il se vend 88 millions de jeans par an en France. Pour rappel,
au 1er janvier 2022, la France comptait 67 813 396 habitants. 73 djinns sont vendus par seconde dans le monde. 2,6 tonnes de vêtements sont enfouis ou brûlés chaque seconde dans le monde.
Car soi-disant, pour être éco, c'est le plus grand capital de fortune qui existe, l'homme qui fait du jeans.
Et malgré cela, étonnamment, ce pantalon qui est surproduit, qui est le symbole aussi de la surconsommation, perdure. Avec tous les paradoxes qui, normalement, sur le papier, fait que ça ne fonctionne pas. On est sur une toile de Nîmes qui est faite pour durer. C'est pour ça d'ailleurs que ce pantalon a ce succès, c'est qu'au départ c'est un pantalon de travail et qu'il est solide et c'est pour ça qu'on l'utilise. Et il s'en vend combien ? 70 par seconde. Je ne comprends pas ce mystère, je ne comprends pas ce paradoxe. On en détruit plus qu'on en porte. Et ça fonctionne encore. Et ça fonctionnera peut-être encore dans 10 ans. Enfin, ceci dit, avec tous les jeans qui sont produits, on en a largement pour à peu près les 3 siècles à venir. Donc c'est un vêtement universel, tour à tour symbole d'esclavagisme, symbole de liberté, symbole d'émancipation sexuelle, symbole de révolution industrielle, et puis aujourd'hui aussi, symbole de ce que peut produire de pire l'industrie textile.
Le jean et l'usure. La mode a quand même très bien compris que avec le jean, elle pouvait continuer à nous en procurer chaque année en faisant varier les modèles. Elle pouvait continuer à nous en faire consommer. Et c'est un peu le travers du jean, c'est d'être un peu ce symbole d'une surconsommation.
Oui, mais tous les étudiants de mode connaissent le cycle du jean, sont en principe incollables sur les lieux où ça se fait, le nombre de milliers de litres pour, etc., les produits toxiques. Bon, ça fait partie de leur culture. Il y a des tissus tech dans les écoles de mode et on a, dans l'école dont je suis consultante, on a une tissu tech qui montre la différence entre des textiles bio, des textiles durables, voilà. Donc, il y a une grande connaissance aujourd'hui. Il y a une approche écologique du jean. Ils savent qu'il faut faire attention.
Quand on s'imagine styliste ou futur styliste, oui. Est-ce qu'on peut faire une mode sans un jean ?
Alors, d'abord, les matières du jean, enfin le denim, on peut en trouver des durables, des responsables, des écologiques, voilà. Mais c'est après, très souvent, la manière dont ils créent. On récupère les jeans, on retravaille le jean et il y a des collections entières qui sont faites à partir de jeans récupérés et on a tout ce travail des empiècements, des mélanges de matières. Ils peuvent dessiner des nouvelles formes de jeans avec le recycling, hein, et ils ne s'en privent pas. Je pense qu'il y a une conscience très très forte de ça ne peut plus continuer comme ça. Regardez ce qu'ils ont, c'est-à-dire les générations d'avant, ce qu'ils nous ont laissé, regardez ce qu'ils nous font, il faut qu'on change.
Et vous, Nicole Fouché, est-ce que vous vous souvenez du premier jean que vous avez eu ?
Ben oui, bien sûr. C'était un Levi's dans les années 60 et je me rappelle qu'à l'époque, pour montrer que ça n'était pas un jean neuf, on le passait au... Alors, j'allais dire à l'Opinel, parce que... Oui, c'était un Opinel qu'on avait comme couteau de poche. On essayait de le vieillir. Bon, mais c'était très long à faire, parce qu'un jean des années 60, vous pouviez le porter longtemps sans que les marques apparaissent. On enlevait le bleu trop foncé, en particulier sur les genoux, pour bien montrer qu'on avait beaucoup marché, qu'on avait joué dans la forêt, enfin qu'on avait vraiment vécu avec ce jean. Il fallait pas qu'il soit trop neuf.
Il fallait que le jean ait une histoire déjà.
Complètement. On ne voulait pas faire « c'est mon premier jean, c'est celui qu'on m'a offert pour mon anniversaire ». Non, il fallait que ça soit un jean qui ait vécu.
Instructions de délavage. Méthode mystique.
vous vous agenouillez vers le levant et vous priez. Si la foi peut soulever des montagnes, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne puisse pas décolorer les djinns. Méthode pratique. Prenez une cuvette. Demandez-vous pourquoi vous l'avez prise. Souvenez-vous-en brusquement, remplissez-la aux trois quarts d'eau de mer, un quart d'eau de Seine, un autre quart de mélisse, un quart à vanne, un quart table et un quart d'heure. Puis, mettez seulement un tiers de gros sel et quelques gouttes de javel. Pressez au-dessus un citron vert, attendez que le produit soit dissous et dans un même temps, faites mijoter à feu doux une casserole remplie de rivets, de clous, de strass, de badges, d'étoiles, etc. Prenez délicatement le vêtement entre le pouce et l'index. La toile de jean étant particulièrement rétive, nous vous conseillons de vous tenir dans la direction opposée à la cuvette en sifflotant innocemment et de vous retourner brusquement afin de pouvoir plonger le vêtement par surprise, le maintenir fermement et sans pitié sous l'eau pendant quelques minutes jusqu'à ce que les derniers soubresauts aient cessé. Dès que les dernières bulles auront disparu, le délavage effectif commence. Marité, François Girbeau, ça, 1972.
Moi, quand j'avais 18 ans, on achetait un jean, de toute manière, on portait que ça. Donc forcément qu'on n'avait pas d'autres vêtements. Alors, il s'usait. Très vite. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on trouve des astuces pour un peu les délaver, parce que on a tellement d'affaires. Donc, c'est un vêtement qui n'est jamais défraîchi, en fait. Tout notre rapport à l'âge, tout notre rapport au temps qui passe, c'est de penser que c'est la cata. Eh ben, un jean, c'est pas la cata. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous trouver un Levi's de 1960, ben moi, je suis un Levi's de 1960. Moi, je suis né en 62.
Millésime.
C'est ça, ça nous apprend que le temps qui passe est une chose extraordinaire.
Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a autrefois, au siècle dernier, dans les années 90, quand on achetait son jean, c'était un 501. Et il fallait le porter, le laver plusieurs fois. Et on voyait qu'il était à vous et que c'était le vôtre, aux cuisses. Parce que vos cuisses et l'empreinte du genou étaient là dans le corps. Dans le jean, pardon. C'était le vôtre. C'était une seconde peau. Et c'est là qu'il devenait beau. C'est ce que j'appelle la patine.
Il était là, au pied du lit, tout en boule. Plus exactement, la jambe droite et la jambe gauche s'étaient tire-bouchonnées au point de faire comme deux tours d'un château de sable partiellement écroulé. Je n'avais plus qu'à sauter dedans. Il m'attendait. C'était son jean à lui, lui, le jeune homme qui dormait à côté. C'était mon corps à moi, tout aussi jeune. Je voulais me glisser dans son jean, savoir ce que c'était que d'être lui, un peu. Sans rien de plus que mes 20 ans, je laissais ma jambe droite, puis la gauche, se fondre dans la toile adoucie par les jours. Je fermais un à un les boutons de la braguette, anxieuse à l'idée qu'il se réveillât avant que je n'aie pu sortir. Ce n'était pas un vol, c'était un emprunt. Juste pour voir, pour savoir, pour sentir son corps et le mien réunis. Le jean n'était pas à ma taille, mais j'aimais la sensation d'espace sur les côtés comme un monde à explorer. J'aimais la longueur à retrousser. J'aimais le ticket de métro oublié dans la poche arrière. Lui aima particulièrement les croissants que je rapportais ce matin-là.
Vous avez déjà posé des questions aux gens, comment ils lavent leurs jeans ? Alors, il y a ceux qui les lavent pas trop fort pour pas qu'ils se délavent. Il y a des gens, comme ma mère, qui les lavaient à 60 degrés parce qu'elle savait qu'un jean, c'est une trame resserrée. Et que si vous dépassez pas les 40 degrés, ça lave pas. Enfin, il y a toujours des bactéries. Il y a les gens qui l'imbibent de vodka et le mettent au congélateur. Il y a les gens qui le mettent au congélateur tout court. Ce qui ne fait strictement rien. Il y a eu des études scientifiques qui ont dû être menées pour savoir si ça... Enfin voilà, vous les lavez à l'envers ou à l'endroit? Puis c'est quand qu'on lave un jean? Quand il y a une tache apparente? Ou quand vous l'avez porté 3 fois, 5 fois, 7 fois? Mais c'est ça qui est fascinant avec la mode, en fait. C'est pas Marlon Brando, Chanel, ou ces choses-là. C'est ce que les gens font. Ce que leurs croyances. Parce qu'en réalité, là, vous rentrez dans le domaine de l'anthropologie, dans le domaine de l'humain. Et l'humain, pour moi, pour un sémiologue, c'est pas du tout ces espèces de sentiments à la neuneu, la bienveillance, la gentillesse. Non, l'humain, c'est du rituel. C'est des rendez-vous, c'est des façons de faire, c'est des convictions. Quand il est bien parfait, c'est une seconde peau. Ça devient visible que c'est vous. C'est ça ce que j'appelle l'incarnation du vêtement. Parce qu'il y a cette patine, qu'il y a cette appropriation, ce resserrement, cet élargissement. Il devient votre corps. On peut dire que c'est magique de voir quelqu'un qui tout à coup est totalement incarné parce qu'il n'y a pas d'un côté un corps, de l'autre une personne qui parle et ensuite des habits. Non, il y a les trois en même temps. C'est une épiphanie.
Jean bleu, cuir noir. Quand t'es arrivé, j'ai senti mon cœur vibrer. T'étais comme Johnny, junkie. Bronzage de LA, cheveux blonds gominés. Et t'étais un peu ringard, mais t'avais dans le regard quelque chose de malsain. C'était ce dont j'avais besoin.
Merci à Sophie Fontanelle, Sylvie Marot, Nicole Fouché, Sylvette Godichon, Marie Schill, Anthony Maté et Farid Chenoun. Prise de son, Clément Vuillet, Yves Lehors, Florent Layani, Julien Bourdet, Florent Bujon et Valérie Lavalard. Mixage, Valentin Azan. Documentation, Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Marie-Vonna Bolivier et Anaïs Morales. Coordination, Perrine Kervran. C'était Les vêtements de nos vies, deuxième épisode, Nos années jean. Un documentaire d'Emmanuel Paul, réalisé par Véronique Samouilov.
Jean bleu, gangster, tu disais partir pour mieux pouvoir revenir. Je t'ai dit, pars pas, mon cœur, on n'a pas besoin d'argent, on a déjà le bonheur. Mais tu as insisté, tu n'es jamais rentré. J'ai encore sur la bouche le goût de ton dernier baiser. J'ai allumé la télé, on ne parlait que de toi et du type qui t'avait buté, oh bébé. J'étais moi jusqu'à la fin des temps. J'attendrai que ce soit le moment. Promets-moi de rester près de moi, même si c'est un amour hors la loi. Je t'aime plus que toutes ces salles qui attendent leur tour. Est-ce que tu sais ça, mon amour, oh bébé? Jusqu'à la fin des temps. Je t'aimerai jusqu'à